Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau.
Salut Donald.
Salut Denis Martin. Bonjour tout le monde.
Quitte le petit écran, le gros écran, on va sur le petit écran. Ben, ça dépend des gens, on a tellement des grands écrans maintenant, on dirait qu'on est au cinéma, mais on s'en va parler de Netflix aujourd'hui.
Oui, on va parler de, on va faire un spécial Netflix parce qu'il faut avouer quand même qu'ils ont beaucoup de contenu LGBTQ. J'arrête pas d'en découvrir de semaine en semaine. Et ça provient de plusieurs pays différents. Ce sont des films, des téléfilms, des mini-séries. Puis des mini-séries, c'est très agréable parce que de s'éterniser pendant 4, 5, 6 ans dans une série, des fois, c'est très long. Des mini-séries de 8, 10 épisodes, c'est parfait.
Quand on fait du binge-watching comme moi, là, ça fait 6 saisons, ça fait un long week-end. Allons-y d'une première série.
Un pays donc qui est très bon là-dedans, c'est étonnant, c'est bien, c'est l'Espagne.
Oui.
Alors, en premier lieu, je vais vous parler de Smiley.
J'ai adoré.
T'as adoré. C'est extraordinaire. C'est très bon, très drôle. Il s'agit d'une mini-série en 8 épisodes de 30 minutes. C'est une comédie romantique basée sur la pièce de théâtre de Guillem Clua, une comédie qui est produite et diffusée à partir du 7 décembre 2022 sur Netflix. L'histoire est la suivante. À Barcelone, à cause d'une erreur de numéro de téléphone, un jeune barman, Alex, et un architecte cinéphile, Bruno, tous deux gays et célibataires, se rencontrent. Différents en tout point, ils ne se supportent pas, mais éprouvent tout de même de l'attirance l'un pour l'autre. Les deux hommes et leurs amis jonglent avec hésitation, embûches et occasions manquées, tout en cherchant le véritable amour dont ils ont besoin. Bruno est interprété par l'acteur Mickey Esparbé, alors que l'acteur qui incarne Alex s'appelle Carlos Suevas.
Oui, puis rappelez-vous du nom parce qu'il est souvent dans les productions
espagnoles ou même mexicaines parfois.
Oui.
Il est très beau d'ailleurs, très sympathique, je me permets de le dire. Il tient très souvent des rôles gays, alors qu'apparemment il ne le serait pas selon ce que j'ai trouvé à son sujet sur le web.
Mm-hmm.
Carlos Suevas, d'ailleurs en passant, est né en Catalogne et il s'affiche profondément attaché à son coin de pays.
D'accord.
Alors toujours avec cet acteur, Carlos Suevas, il y a la mini-série espagnole Philo, mais qu'on peut aussi trouver sous le nom de Merli, M-E-R-L-I, que tu as vu aussi, je pense.
Oui, ben oui.
Très, très bon.
J'en manque pas beaucoup de ces choses.
Non, c'est ça.
Ça aussi, ça a été un binge-watching. Juste en passant, il n'y aura pas de deuxième saison pour ce mardi, je suis très déçu.
Oui.
Mais en tout cas, il y a quand même eu 2 saisons de Philo.
De Philo. C'est composé de 2 saisons contenant chacune 8 épisodes. Le synopsis est le suivant. 3 mois après la mort de Merli, son professeur de philosophie au lycée, Paul Rubio, alias Carlos Suevas, choisit de tenter sa chance à l'Université de Barcelone en étudiant la philosophie pour devenir lui-même enseignant. L'intrigue se déroule peu après la mort de Merli et suit son élève préféré, Paul Rubio. Paul se dit bisexuel auprès de ses amis, mais il est finalement attiré par les hommes et d'ailleurs, il tombe sous le charme d'Axel, un très séduisant chef de chantier intervenant à l'université. Les personnages de cette histoire sont sympathiques et très agréables à regarder.
Je t'interromps, il y a quelque chose de très important. On apprend que Paul... Ah, oh, je peux le dire. J'ai dû le gâcher. Il est séropositif.
Oui, c'est vrai.
Oui,
oui c'est vrai. Effectivement, dans la deuxième saison.
Ouais.
Ou à la fin de la première.
Je pense que c'est
la
fin de la première.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai. Tu peux le dire. C'est pas.
Oui, parce que ça change pas. Je veux pas gâter votre plaisir.
Non, c'est ça, exactement. Toujours en provenance d'Espagne, mais en coproduction avec le Mexique, la mini-série Quelqu'un doit mourir. Ça peut être présenté sous forme de « Someone has to die » en version anglaise, je le précise, parce que pour les recherches, c'est parfois intéressant. C'est excellent, mais ici, évidemment, on laisse tomber la comédie pour tomber dans le drame. L'acteur Carlos Suevas est encore au générique, mais il ne tient pas ici le rôle principal. Alors, l'histoire est la suivante. Dans l'Espagne conservatrice des années 50, la relation présumée entre Gabino, un jeune homme de bonne famille, et Lázaro, un danseur de ballet mexicain, crée un tollé aux conséquences dévastatrices. C'est excellent, certes, mais aussi très dur, en particulier le dénouement. Et parmi les personnages les plus conservateurs de la mini-série, il y a celui de la terrible Amparo, qui est la détestable grand-mère de Gambino. Elle est interprétée par la toujours extraordinaire et légendaire actrice Carmen Mora, qui est la muse du cinéaste Pedro Almodovar.
Là, je vais te faire de la peine, mais j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop sanguignolant.
Ah oui, t'as trouvé?
Oui, et puis ça nous ramenait dans une époque, une façon de voir. Il y avait rien de beau dans cette série-là. Ça m'a beaucoup...
Ça t'a choqué?
Oui, ça m'a choqué.
OK.
Alors, heureusement, il n'y a pas de deuxième saison.
Non. Mais il faut dire que, comme je te l'expliquais, c'est dans les années 50. Oui. Et l'Espagne a énormément changé, hein, quand oui. on dit qu'elle a autorisé le mariage pour conjoints de même sexe.
C'était très sanguinolent.
Avant la France.
Beaucoup de violence, beaucoup de sang, oui. beaucoup de oui. scènes oui. qui, moi, à mon avis, ça aurait pu être coupé.
Oh, la grand-mère est méchante.
Ben, pas rien que ça. Moi, c'est les scènes de violence m'ont beaucoup perturbé. C'était trop. Moi, je dirais même que c'était gratuit.
Il y a des scènes difficiles, effectivement. Oui. Mais une autre série, mini-série que tu as vue, mais qui t'a fait extrêmement rire.
Ah, ben oui.
C'est toujours c'est une mini-série mexicaine, La Casa de las Flores.
Ah, c'est tellement drôle.
Un plaisir coupable.
Ah, oui, oui. Ça, c'est un plaisir coupable. Oui. C'est comme de regarder Dynasty, d'ailleurs.
Oui, oui. Bon, c'est moins. Disons, c'est plus moderne.
C'est plus moderne, oui.
Alors, cette comédie, donc, dure 3 ans et se divise en 13 épisodes pour la saison 1, 9 pour la saison 2 et 11 pour la saison 3, d'une durée d'environ 30 minutes par épisode. Alors, c'est créé par Manolo Caro et mis en ligne à partir de 2018 sur Netflix, y compris dans les pays francophones. Chaque épisode porte le nom d'une fleur choisie pour ce qu'elle symbolise en lien avec le contenu de l'épisode. Alors, qu'est-ce que la Casa de las Flores? C'est un magasin de fleurs tenu par la famille de la Mora, une famille totalement disjonctée, hilarante, mais aussi le nom d'un cabaret de spectacle de travestis et de drague géré par la même famille.
Alors, il faut le voir pour comprendre, mais c'est très drôle.
C'est très drôle. Alors, le fils de la Mora, Julian, cache sa bisexualité et surtout, il cache sa relation de plusieurs années avec Diego, le séduisant conseiller financier de l'entreprise de fleurs. Les personnages sont tous plus grands que nature et l'acteur Juan Pablo Medina, qui campe Diego, est beau à souhait. Hein? Ouais. Il fait un fait intéressant, c'est qu'il est né en Virginie. C'est un Américain d'origine, mais il a fait le choix de vivre et de travailler au Mexique.
Ah, puis c'est les sœurs aussi. Comment s'appelle celle-là qui est toujours en train de se plaindre?
Je m'en souviens pas. Ah, du nom de la...
Moi non plus, j'essaie de me rappeler de son nom, mais oh mon Dieu, moi, elle me fait rire.
Oh, c'est tordante.
Mais comme je parle espagnol, j'écoute ces séries-là en espagnol aussi. Oh, c'est vraiment, vraiment génial, dans la langue d'origine.
Très bien.
Oui.
Une mini-série américaine maintenant, c'est évidemment les Chroniques de San Francisco.
Tout à fait.
Tales of the City, qui est basée sur les romans de Armistead Maupin. C'était une mini-série à l'époque, dans les années 90 et au début des années 2000. On avait adapté plusieurs des romans, les trois premiers en fait, de Maupin, et ça avait été un très grand succès. Alors en 2019, on a décidé de ramener les principaux personnages pour en faire une suite. On retourne donc au 28 Barbary Lane, la fameuse adresse où vivait le personnage central de Mary Ann Singleton, interprétée par la toujours excellente Laura Linney, qui a été 3 fois nominée aux Oscars. On y retrouve aussi un pilier des histoires de Maupin, c'est Anna Madrigal, une femme trans propriétaire des lieux, qui est brillamment interprétée par Olympia Dukakis, qui a été oscarisée, je le rappelle, en 1988 pour son rôle dans Moonstruck. Elle était la mère de Cher là-dedans.
Oui, mais qui est maintenant décédée.
Oui, Olympia Dukakis, qui nous a quittés récemment.
Oui.
Alors, après 23 années d'absence, Marianne retourne au 28 Barbary Lane à San Francisco pour fêter les 90 ans d'Anna Madrigal. Elle va y retrouver ses amis avec qui elle a vécu pendant de longs moments. On y retrouve le personnage gay de Michael Tolliver, surnommé Mouse, par ses amis, qui est désormais incarné par un acteur gay australien qui s'appelle Murray Bartlett. Bartlett est un très bel homme qui a aussi joué dans une autre série gay qui s'appelle Looking.
Oui, oui, oui.
Dont je vous reparlerai une autre fois puisque ça ne passe pas sur Netflix, mais bien sur HBO.
On fera un spécial HBO.
Et voilà. L'acteur trans et non-binaire Elliot Page, anciennement Ellen Page, joue aussi dans cette nouvelle mouture des Chroniques de San Francisco en interprétant le rôle de Shauna Hawkins, un personnage relié de près à Marianne Singleton. Alors, c'est un bonheur de retrouver cette tribu qui vit des questionnements sur les difficultés des relations amoureuses, les problèmes de boulot, la liberté, les substances illicites, etc., etc.
Et aussi, cette série donc reprend plus tard et on aborde toutes les autres questions d'identité qui n'étaient pas abordées à l'époque.
Oh, c'est ça,
puis,
exactement.
Anna Madrigal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de lettres, le nom un acronyme, c'est-à-dire « I'm a boy and a girl ».
Ah, wow!
Ouais, « A man and a girl », c'est ça que ça voulait dire.
C'est très bien.
Oui.
Une autre mini-série américaine, mais qui plus est, celle-là de science-fiction, tournée entre 2015 et 2017, ça s'appelle Sense8. Alors, c'est le même titre en version française. 24 épisodes tournés dans, par les sœurs Wachowski, Lana et Lily, la première étant une personne trans, et dont le récit tourne autour de 8 personnes réparties à travers le monde qui deviennent soudainement connectées sur les plans intellectuels, émotionnels et sensoriels. La série explore des thèmes sur que les réalisatrices pensent être généralement ignorés par les séries de science-fiction, notamment la politique, l'identité, la sexualité, le genre et la religion. Sense8 est une série mettant en vedette des personnages queer aux identités fortes. Connectés par une violente vision, ils sont maintenant liés, désormais capables de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient à côté les uns des autres, alors qu'il y en a une en Islande, l'autre au Japon, ainsi de suite.
Oui.
C'est une des séries chouchous du public sur Netflix d'ailleurs, et le personnage de Lito Rodriguez est un acteur mexicain secrètement gay, secrètement pour ne pas nuire à sa carrière, mais qui a une relation avec le bel Hernando. Alors, il y a le personnage également de Noomi Marx, qui est une femme trans, interprétée par une réelle actrice trans, qui est très bien, la très belle Jamie Clayton. Alors, Sense8 est un véritable coup de cœur. Cette série LGBTQ est un voyage humaniste à elle seule.
Je vais te faire plaisir. J'ai aimé ça.
T'as pas!
Je les ai toutes vues, ces séries-là. J'avoue que je passe beaucoup trop de temps à la tête devant le téléviseur. Il nous reste une minute. Allons-y.
Une minute. Oui. Pour parler de The Boys in the Band.
Yes.
C'est sorti en 2020. Je rappelle rapidement que ça a été tourné par Joe Mantello, à qui l'on doit l'extraordinaire Love, Valor, Compassion, dont j'avais déjà parlé ici à l'automne dernier. The Boys in the Band, ça a été une pièce de théâtre au départ, en 68. Enfin, c'était très osé de présenter Off-Broadway une pièce gay. 2 ans plus tard, en 70, le réalisateur William Friedkin, qui est décédé récemment et à qui l'on doit le fameux film d'horreur L'Exorciste, en a fait un film en 1970. Et là, on a décidé d'en faire un remake en 1900, c'est-à-dire dans les années 2000. Alors, pour ce faire, le réalisateur Joe Mantello n'a engagé que des acteurs connus et tous gays. Alors, Zachary Quinto, Matt Boomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Brian Hutchison, etc., etc.
Donc,
une distribution entièrement gay pour des personnages gays dans un film réalisé par un cinéaste gay. Alors, la gamme est complète.
Bon, on est capable de faire des choses nous-mêmes.
Je
vais devoir t'arrêter là, Donald.
C'est très bien.
Merci beaucoup.
À suivre dans un mois,
certainement.
Merci.